Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'heure juste sur les ondes du 97.3. Mon nom est Simon Dominé, directeur de l'information à CAGAFM, et j'ai le plaisir de vous retrouver en ce mercredi 28 janvier 2026. Aujourd'hui, mon collègue Alexis Goyer, journaliste à la salle des nouvelles de CAGAFM, revient sur la vie hors du commun d'un homme discret et généreux qui était un résident de la municipalité de Montcerf-Litten. Il nous a quittés après un long combat contre la maladie de Parkinson. Il s'agit de Jacques Duhou. Originaire de Belgique, aventurier, explorateur, guide d'aventure extrême, protecteur de l'environnement et adepte d'un mode de vie autosuffisant, ce dernier a notamment contribué à faire connaître la vallée de la Gatineau à l'étranger. Alexis en parle avec une amie de longue date de Monsieur Duhou, Marlène Tonnard, qui est bien connue dans la vallée de la Gatineau puisqu'elle est la présidente du pôle d'excellence en récréotourisme de l'Outaouais, le PERO. Mais pour débuter, on va discuter d'adaptation au changement climatique en lien avec l'eau, car la MRC de la vallée de la Gatineau a participé récemment à une formation à ce sujet avec le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre, le COBALI. Le COBALI a abordé la problématique de la pénurie d'eau exceptionnelle que nous avons vécue en 2025 et présenté aux employés municipaux participants des mesures d'adaptation face à ce phénomène. J'en parle tout de suite avec Marie Lagrandeur, chargée de projet au COBALI. Bonne émission. Au 97.3, on vous donne... Je suis avec Marie Lagrandeur, qui est chargée de projet pour le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre, le COBALI. Je rappelle que dans la vallée de la Gatineau, les municipalités de Déléage, Lac-Sainte-Marie, Gracefield et Denholm font partie de la zone de gestion de cet organisme qui a pour mission de protéger et de gérer l'eau dans plusieurs bassins versants qui sont situés en Outaouais et dans les Laurentides. On a la MRC de la vallée de la Gatineau qui a participé récemment à une formation sur l'adaptation au changement climatique qui était offerte par le COBALI et le réseau québécois sur les eaux souterraines. Et à cette occasion, on a la coordonnatrice scientifique du réseau québécois sur les eaux souterraines, Myriane Ferlaté, qui a abordé l'enjeu des changements hydroclimatiques alors que la saison estivale 2025 a été marquée, on se le rappelle, par une pénurie d'eau exceptionnelle. Alors pour commencer, Madame Lagrandeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la pénurie d'eau qui a été vécue cet été sur une grande partie du territoire québécois a été exceptionnelle et est-ce que la vallée de la Gatineau a été touchée? Donc on parle notamment des municipalités de Déléage, Lac-Sainte-Marie, Gracefield et Denholm.
C'est sûr que c'est difficile de savoir exactement les causes et les prévisions à venir, mais il y a plusieurs organismes comme Uranos qui font des modélisations du climat, donc qui prennent toutes les données possibles et qui essaient de produire en fait des prévisions pour savoir un petit peu quoi s'attendre au changement climatique. Nous, on s'est un peu plus attardé au changement hydroclimatique, donc tout ce qui est en lien avec l'eau, comme vous avez mentionné, là, les pénuries d'eau. Effectivement, cette année, il y a eu des sécheresses là, à la fin de l'été, au début de l'automne, qui ont vraiment affecté plusieurs personnes, là, donc des puits qui se sont retrouvés à sec. Certaines municipalités aussi ont connu ce genre d'événement. On peut s'attendre effectivement avec les hausses de température attendues à ce que ça soit quelque chose qui puisse réarriver dans le futur. C'est sûr que c'est dur à prévoir aussi précisément que ça, mais vraiment là, la formation, en fait, qu'on a offert aux municipalités et aux MRC visait à justement présenter à quoi les municipalités pouvaient s'attendre en termes de changement hydroclimatique et surtout de les outiller, là, donc de leur présenter les différents outils comme justement le portrait climatique d'Uranos pour qu'elles puissent les consulter et pouvoir planifier donc les futurs événements comme ça qui pourraient arriver.
D'accord, parce qu'avec Uranos, hein, expliquez-nous, mais en gros, on peut se projeter quelques mois d'avance sur ce qui va arriver?
En fait, on peut se projeter avec plusieurs années d'avance. Donc, il offre des différents horizons de temps qui peuvent aller jusqu'à 2100. Donc ça, c'est vraiment un outil aussi, en passant, qui est disponible là, sur Internet pour quiconque souhaiterait aller regarder. Là, les citoyens peuvent aller s'amuser sur cette carte interactive. Donc, ça permet de regarder là, les prévisions climatiques en termes de quantité de pluie, en termes d'augmentation de la température, donc les épisodes de gel, dégel qu'on pourrait avoir pendant l'hiver. Donc oui, c'est un outil intéressant à regarder.
D'accord. Donc j'imagine que vous l'avez regardé ou que le COBALI l'a scruté déjà, cet outil-là. C'est quoi les changements hydroclimatiques actuellement, qu'on vit actuellement dans notre région, qu'on ne vivait pas avant, et lesquels on va vivre dans les prochaines années, les prochaines décennies, si on reste dans le secteur encore outaouais-laurentide là, que vous couvrez avec votre organisme, c'est quoi on doit s'attendre?
C'est sûr que c'est des prévisions, donc oui, c'est vraiment sur des bases scientifiques, mais c'est pas non plus coulé dans le béton. Là, il y a tellement de facteurs qui vont venir influencer, mais on peut s'attendre. Là, ben, en fait, on les voit déjà si on compare juste nous notre expérience quand on était jeune versus aujourd'hui les périodes de chaleur qu'on a, donc les grands épisodes aussi de fortes pluies qui sont d'un extrême à l'autre. Donc, c'est tout des événements qu'on voit qui sont de plus en plus fréquents, des chemins qui sont arrachés par des fortes pluies. Donc, on dirait qu'on entend de plus en plus ça hein, l'été, là, donc les fortes périodes de pluie aussi au printemps, à l'automne. Donc oui, c'est assurément des choses qu'on voit déjà dans la vallée de la Gatineau, dans les Hautes-Laurentides, des événements particuliers comme ça qui semblent être de moins en moins isolés. Oui, c'est des choses qui peuvent s'attendre et qui sont aussi présentées là, si on regarde les portraits justement de Uranus là.
D'accord. Alors pendant la formation, là, on avait, comme vous l'avez expliqué, la personne qui venait, la coordonnatrice scientifique du réseau québécois sur les eaux souterraines, là, qui a parlé de l'enjeu des changements hydroclimatiques. Le COBALI aussi, lui, a parlé de l'impact des changements climatiques sur le ruissellement, notamment hein, le ruissellement, les infrastructures et la qualité des milieux aquatiques. Alors, on vient d'en parler un petit peu, mais le portrait général qui se dégage au niveau du ruissellement, des infrastructures et même de la qualité des milieux aquatiques, c'est quoi actuellement?
C'est sûr qu'on peut s'attendre, comme j'ai mentionné, justement des extrêmes de chaleur, donc des périodes de forte sécheresse qui vont faire en sorte que le sol devient très, 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 très sec. Et suivi ensuite de fortes pluies, ça fait en sorte que le sol, des fois, quand il est tellement sec, il va avoir de la misère à absorber. Donc, l'eau va plus facilement ruisseler. Et le ruissellement, là, on peut associer ça à directement de l'eau qui va couler en forte quantité dans les cours d'eau, dans les rivières, dans les lacs, et qui va apporter là avec l'action du ruissellement des débris, des polluants qui peuvent venir des routes, des voitures, des bardeaux d'asphalte, par exemple. Donc, tout ça va apporter en grande quantité et dans un court laps de temps des polluants et du matériel dans les lacs et cours d'eau. Donc, ça, on peut imaginer qu'effectivement, il y a une détérioration de la qualité de l'eau. Donc, pour les organismes vivants, les poissons, par exemple, les truites sont très sensibles aux particules fines, autant dans leur reproduction que dans tous les moments en fait de leur cycle de vie. Donc, on peut s'attendre aussi à ce que ça fasse du réchauffement dans les eaux. Donc, il va avoir des impacts attendus sur les communautés de poissons, les communautés vivantes et la qualité de l'eau en général.
D'accord. Alors, la formation, elle s'adressait spécifiquement aux employés du milieu municipal. Là, on parle des employés municipaux des services de l'urbanisme, de l'environnement, des travaux publics, de l'assainissement des eaux. On les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces professionnels vont devoir adapter leurs pratiques à l'avenir?
C'est sûr qu'ils vont être, ils sont déjà, en fait, ils font déjà face à des défis, justement, qu'il y avait moins avant, comme justement des épisodes de très, très forte pluie qui lavent complètement des routes, des chemins en terre. Donc, on a des problèmes aussi de ponceaux qui arrachent avec les fortes pluies. Fait que c'est des défis que les municipalités vont avoir à faire face et font déjà face, en fait. Là, il y a eu plusieurs événements dans les dernières années. Donc, c'est sûr que c'est difficile de prévoir exactement, mais c'est de prendre en compte cette nouvelle réalité-là, ces changements-là dans l'aménagement du territoire, dans la préparation des travaux à faire éventuellement, dans l'aménagement de nouveaux quartiers, par exemple. Donc, sachant qu'il y a une nouvelle superficie qui va être imperméabilisée, bien, c'est de prévoir un petit peu toute l'eau qui va venir de ces nouvelles superficies imperméabilisées-là à traiter. Donc, c'est vraiment dans la préparation, là, les municipalités vont avoir à gérer ça.
D'accord. Dernière question concernant la présentatrice du réseau québécois sur les eaux souterraines, la coordonnatrice scientifique là qui parlait des changements hydroclimatiques. Elle a abordé, hein, selon ce que je lis de votre communiqué de presse, l'enjeu aussi des eaux souterraines et des puits. Bon, on est en région, il y a beaucoup de personnes qui ont un chalet ou en tout cas leur maison n'est pas raccordée au service d'aqueduc et d'égout. Ils vont puiser leur eau eux-mêmes dans un puits. À quoi ça ressemble aussi la situation actuellement pour ces résidences-là?
C'est sûr que ça va être à prendre en considération. Il y a déjà des gens qui ont manqué d'eau justement cette année dans leur puits individuel à cause de la sécheresse qu'il y a eu à l'automne. C'est sûr que le régime d'eau, un peu comme ça justement, qui va alimenter l'eau souterraine, va changer. Donc, souvent, il y a des recharges qui vont se faire à l'automne et au printemps. Là, on le sait qu'à l'automne, ça se pourrait qu'il y ait plus de sécheresse, donc moins de recharge des eaux souterraines. Et qu'au printemps, ben la fonte de la neige va se faire plus graduelle à travers l'hiver. Donc, il va y avoir des moins grosses crues attendues au printemps. Fait qu'il va y avoir des changements à anticiper comme ça. C'est sûr que c'est difficile, ça change de place en place. C'est pas non plus quelque chose qui peut être apposé à toute la région au complet, mais c'est des choses que les gens vont peut-être avoir à faire face. Donc, il y a des puits, des fois des puits de surface, c'est un petit peu plus vulnérable à ce genre d'événements-là, parce qu'il y a une moins grande quantité d'eau, etc. Donc, vraiment, il y avait aussi il y avait beaucoup d'informations là, que Mme Myriane Ferlat a transmises par rapport aux eaux souterraines. Et j'invite les gens, s'ils ont des questions par rapport aux eaux souterraines, à aller voir sur le site Internet du Réseau québécois des eaux souterraines. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et ça aide à comprendre aussi la vulnérabilité. Des fois, là, il y a des gens qui ont des installations septiques autonomes proches d'un puits. On peut comprendre là, le tout, pourquoi ça peut être très dangereux pour la santé des gens. Donc, je vous invite à aller voir le site, c'est très intéressant.
Excellent, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que j'étais avec Marie Lagrandeur. Vous êtes chargée de projet pour le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre, le COBALI. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.
Pareillement, merci à vous.
Au revoir. Restez avec nous sur les ondes du 97.3. On fait une courte pause publicitaire et l'heure juste reprend tout de suite après. Le journaliste Alexis Goyer s'entretient avec Marlène Tonnard à propos du décès d'un personnage de Montcerf-Litton plus grand que nature, Jacques Duhou.
Au 97.3, on vous donne